Suite des matins avec la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
En lisant la presse britannique ce matin, on pourrait croire que Londres a enfin repris la main sur Bruxelles pour renégocier l'accord sur le Brexit.
Theresa May et son Brexit deal reviennent de parmi les morts. Ça, c'est le titre du Daily Mirror ce matin. Après cette journée d'hier au Parlement britannique, que The Eye qualifie de son côté de journée extraordinaire. Journée au cours de laquelle la première ministre britannique est enfin parvenue à ramener dans son camp les députés rebelles du Parti conservateur. C'est le triomphe de May, s'emporte à son tour le Daily Mail. Mais quel triomphe! Celui d'avoir obtenu, ce mardi donc à la Chambre des communes, le vote d'amendement qui lui donne enfin un mandat clair, celui de retourner à Bruxelles pour renégocier l'accord sur le Brexit, trouver en particulier une alternative au dispositif du backstop à la frontière irlandaise. En clair, titre le Daily Telegraph, Theresa May ramène la bataille du Brexit à Bruxelles, et c'est d'ailleurs cette conviction que tout peut être renégocié depuis le départ qui inquiète ce matin aussi bien The Guardian que le Financial Times, ces journaux qui depuis le début ont pris position contre le Brexit, douchent l'enthousiasme unanime des tabloïds. La tentative de May de réécrire l'accord est vouée à l'échec, affirme le Financial Times en une. Elle est vouée à s'écraser contre le mur de l'Union Européenne.
Car dès hier soir, les dirigeants européens, Emmanuel Macron en tête, ont clairement dit qu'il était hors de question de renégocier.
Et c'est ça qui fait dire à Raphaël Baird dans les colonnes du Guardian que Theresa May pense qu'elle a gagné, mais la réalité du Brexit va la frapper à nouveau très vite. Son problème, ce n'est pas l'accord, ce n'est pas le backstop irlandais ou Bruxelles, non, son problème c'est le Brexit en lui-même. Et les députés pro-Brexit qui hier se satisfaisaient d'avoir repris la main ne font que s'étourdir à leur propre bluff, cette illusion qu'ils ont toutes les cartes en main et qu'ils vont arriver à faire plier Bruxelles. Penser cela, écrit Raphaël Baird, c'est être soit stupide, soit cynique à un point qui relève du vandalisme et qui consisterait à savoir que votre plan va échouer mais à s'y tenir malgré tout en espérant pouvoir retourner la faute in fine sur l'intransigeance de Bruxelles. Et j'en terminerai sur ce sujet avec un regard allemand, celui du Frankfurter Allgemeine Zeitung sur la position justement de l'Union Européenne. Pour les Européens, refuser toute nouvelle négociation, c'est à la fois une question d'orgueil, de domination mais aussi une question de tactique isolée. Affaiblir toujours plus les Britanniques dans leur propre division, dans l'espoir qu'à la toute fin, eh bien, à la fin de l'histoire, ils accepteront un Brexit soft ou bien carrément un deuxième référendum et potentiellement donc plus de Brexit du tout. Sauf, nous rappelle le correspondant de la FATS à Londres, qu'il y a en jeu non pas le seul Brexit, mais toute la relation de long terme qu'entretiendra à l'avenir l'Union Européenne avec le Royaume-Uni, qui va devenir son principal et incontournable voisin. Un enjeu considérable. Alors non, conclut Jochen Bursteiner, les Allemands n'ont peut-être pas tort quand ils affirment que la balle est de retour dans le camp de Bruxelles.
Bonne ou mauvaise nouvelle, la presse américaine cette fois est hésitante sur la possibilité d'un accord de paix en Afghanistan.
Et oui, car hier on apprenait que les pourparlers qui sont menés en ce moment en catimini à Doha entre des négociateurs américains et une représentation de talibans afghans, ces pourparlers ont permis d'ébaucher une solution de paix. Rien n'est encore couché sur le papier, rien que de vagues lignes directrice, tempère le Washington Post, mais bien au bout du tunnel, il y a peut-être la seule chose qu'ont en commun Donald Trump et les combattants islamistes d'Afghanistan, le souhait d'un retrait des forces américaines de ce pays. Moins sceptique, étonnamment, le New Yorker semble vouloir croire en la chance de Trump de ramener la paix en Afghanistan et d'en finir avec la plus longue des guerres américaines. Les talibans, d'après le peu que l'on a appris hier, s'engageraient à empêcher que des attentats terroristes soient organisés depuis le territoire afghan pour toucher l'Amérique et ses alliés. Et en échange, donc, Washington retirerait ses soldats d'Afghanistan. On peut penser ce que l'on veut de ce deal, écrit donc David Rodd dans le New Yorker. Mais il y a une vraie chance, selon lui, que ça marche. D'autant qu'il y a un alignement rare des planètes géopolitiques. Le Qatar, le Pakistan, l'Iran, la Chine, la Russie, toutes ces puissances régionales semblent donner des signes de soutien au pourparlers de Doha, tant elles veulent que soit trouvée une issue au bourbier afghan. Quant aux talibans eux-mêmes, ils sont forts militairement mais impopulaires dans leur propre pays. Le fait de se retrouver en position de faiseur de paix avec les avantages politiques qu'ils devraient en retirer, c'est une opportunité qu'ils ne semblent pas prêts à laisser passer.
Mais ça pose une question tout de même. À ramener la paix en Afghanistan, ça voudrait donc forcément dire ramener les talibans au pouvoir.
Et c'est bien ce qui inquiète le Washington Post, de voir que ce qui était impensable il y a à peine 20 ans de cela est de nouveau sérieusement envisagé. Le même quotidien publie dans ses pages opinion le commentaire très critique de l'ancien ambassadeur américain en Afghanistan, Ryan Crocker. Pour lui, c'est clair, accepter cet accord avec les talibans, cela équivaudrait à une honteuse capitulation pour les Américains. Crocker rappelle qu'il était ce qu'était le pays quand il y a été nommé en 2002, après justement le passage au gouvernement des islamistes talibans et l'intervention américaine de 2001. Un Afghanistan ruiné, déchiré, hanté par les souffrances indescriptibles qu'avaient subies en particulier les femmes et les filles afghanes. Donald Trump ne doit pas oublier tout ça, écrit l'ancien diplomate, à moins, dit-il, de renier toutes les valeurs de l'Amérique sur ce dernier point. D'ailleurs, chose inhabituelle, le Washington Post tombe d'accord avec son concurrent, le d'ordinaire très pro-Trump, Washington Examiner. On y lit que les talibans prennent Trump pour un imbécile, qu'ils avaient déjà promis à Bill Clinton à la fin des années 90 de lutter contre le terrorisme chez eux et que ça s'est terminé en 2001 avec Oussama Ben Laden pilotant les attentats du 11 septembre depuis les montagnes afghanes.
Merci Camille Magnard.